Bonjour à toutes et à tous, et merci pour ces mots très gentils. Avant de me consacrer aux questions que j'aimerais aborder, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette formation, et tout particulièrement Martine Vatrelot de son aimable invitation. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur d'être parmi vous. J'espère que mon regard extérieur et les informations en ce qui concerne la situation en Allemagne pourront contribuer à des échanges fructueux concernant un sujet tellement important tel que la notion de compétence dans l'enseignement et le socle commun de connaissances et de compétences. J'ai préparé une petite présentation PowerPoint. Voilà. Vu la complexité du sujet, il paraît tout à fait raisonnable de jeter un coup d'œil à d'autres pays européens et d'envisager les questionnements d'ordre non seulement didactique et pédagogique, mais aussi linguistique, entre autres. À mon avis, c'est dans une perspective interdisciplinaire que les reconfigurations qui se dessinent à l'heure actuelle dans nos systèmes éducatifs peuvent être réalisées de manière satisfaisante. Deuxièmement, j'ai également l'honneur de vous transmettre les salutations officielles les plus cordiales de mon université, l'Université de la Sarre. Depuis 2008, nous organisons régulièrement des journées de formation continue pour les professeurs de français en Sarre. Chaque année, nous choisissons un thème différent autour duquel se centre le travail dans environ 12 ateliers. Il y a aussi deux conférences plénières qui traitent le sujet central dans des perspectives différentes. L'an dernier, c'était le sujet des compétences. Comment les enseigner? Comment les développer? Comment les évaluer? Si vous voulez vous faire une idée plus précise, je peux vous renvoyer à notre page web et à nos archives. La formation présente pour laquelle nous nous sommes réunis ici me semble avoir des points communs assez évidents avec notre formation de 2011. Cela prouve d'une part que le sujet, pour ne pas dire les problèmes, sont un peu les mêmes du moins dans nos deux pays, mais d'autre part cela implique aussi une chance, celle de pouvoir entrer en dialogue, d'échanger des points de vue, de partager, pourquoi pas, des soucis, des réflexions, des perspectives, des visions, peut-être aussi la possibilité de pouvoir apprendre l'un de l'autre. Pour notre prochaine journée sarroise qui se déroulera jeudi prochain, nous, Martine Vatrelot et moi, elle l'a dit tout à l'heure, aurions bien aimé établir une visioconférence avec vous pour réaliser cet échange entre les deux publics. Mais les obstacles techniques nous ont empêchés d'accomplir cette idée, du moins pour cette fois-ci. Mais ce n'est pas terminé. Cependant, pour donner une perspective à nos échanges, je vous invite cordialement, chers collègues, à assister à la 6e journée sarroise de formation des enseignants de français en janvier 2013. Donc, ce serait un grand plaisir pour nous de vous avoir parmi nous. Malheureusement, moi-même, je ne peux pas rester avec vous aujourd'hui. Martine Vatrelot l'a évoqué tout à l'heure. La grève en Belgique m'a obligée de changer mon train de retour. Je dois partir plus tôt que prévu, mais j'espère que cela ne nous empêchera pas de rester en contact ou d'entrer en dialogue. Et passons maintenant au contenu. Ma conférence se divise en deux parties. Dans la première sera présentée la situation actuelle en Allemagne. Où en sommes-nous avec la mise en œuvre d'un socle commun et dans quelle mesure cette perspective nouvelle infléchit ou infléchira les programmes d'enseignement ainsi que le fonctionnement de l'école allemande. Cela m'amènera dans une seconde partie à des réflexions plus spécifiques concernant la formation de futurs enseignants de français en Sarre. Donc, socle commun et système fédéral. Tout d'abord, il convient de souligner que qualifier quelque chose de commun dans le domaine éducatif est assez difficile en Allemagne. En raison du système fédéral, les 16 Länder allemands sont souverains en matière d'éducation. Ceci signifie que les conditions et les règlements varient dans chaque land. C'est la conférence permanente des ministres de l'éducation qui s'occupe d'établir des accords parmi les Länder. À travers des recommandations et des décisions pour assurer ainsi une certaine unité dans la diversité et garantir leur coopération. Cette coopération se manifeste entre autres dans un portail internet national appelé Der Deutsche Bildungsserver, qui met à la disposition d'un ample public des informations sur tous les domaines de l'éducation et de la formation. Le portail comporte surtout une présentation systématique des pages web respectives des Länder et de l'État fédéral. Par exemple, tous les curricula, tous les règlements, ce qui est très important à mon avis. Donc, généralement, en Allemagne, les programmes d'enseignement peuvent varier d'un land à l'autre, ce qui constitue sans doute une différence évidente par rapport à la tradition plus centralisatrice en France. Généralement, le sujet d'un socle commun est étroitement lié à les notions de standards et compétences. En Allemagne, on a l'habitude de parler des standards de formation et approche par compétences. D'un point de vue historique, le changement de paradigme qu'impliquent ces deux notions ou ces deux concepts a été provoqué par les résultats décevants que l'Allemagne a obtenus dans les études internationales comparatives sur l'efficacité de l'enseignement scolaire. On a pris l'habitude en Allemagne de parler d'un choc de PISA. Je ne sais pas, en France aussi, je suppose. Oui, le choc de PISA. Et c'est pour cela que j'ai centré mon exposé autour de ces deux notions, standard et compétences. Depuis les années 70, il y a des tentatives pour harmoniser les différences dans le domaine éducatif caractéristique du système fédéral. Ainsi, en 1972, on introduit des exigences communes pour les examens de baccalauréat. Mais ce n'est que depuis les années 90 que se dessinent des tendances unificatrices plus prononcées. D'une part, elles sont la réaction au choc de PISA déjà mentionné, et d'autre part, elle tombe dans une période dans laquelle certaines évolutions à niveau européen ont lieu, qui débouchent dans des recommandations concernant les compétences clés et le plurilinguisme. Quant aux premières, ce sont, d'après le document européen, je cite, « celles qui fondent l'épanouissement personnel, l'inclusion sociale, la citoyenneté », la notion de compétence étant définie comme une combinaison de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées à une situation donnée. Fin de la citation. Le renvoi à la société de la connaissance, à l'internationalisation croissante des économies, influent sur le monde du travail, met d'ailleurs en relief qu'il existe des relations étroites entre les compétences clés et le plurilinguisme qui, apparemment, peut être considéré comme faisant partie intégrale de ces premières. Le poids accordé aux connaissances langagières et au plurilinguisme apparaît dans plusieurs documents. Il devient surtout évident dans un plan d'action qui définit les objectifs spécifiques ainsi qu'une série d'actions à mettre en œuvre entre 2004 et 2006 pour promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique, et qui souligne que, je cite, La capacité de comprendre d'autres langues et de communiquer dans d'autres langues constitue l'une des compétences de base que doivent avoir tous les citoyens d'Europe. Fin de la citation. En conséquence, est fixée comme objectif une formule langue maternelle plus 2, c'est-à-dire, je cite encore une fois, « Tout citoyen européen devrait avoir des compétences lui permettant de communiquer dans au moins deux langues autres que sa langue maternelle. » Fin de la citation. Cependant, la responsabilité de mettre en œuvre des mesures concrètes en faveur de l'apprentissage des langues appartient aux autorités des États membres. Suite à cette initiative, en Allemagne, on a inclus la dimension européenne dans beaucoup de programmes, ce qui a sans doute pour effet une certaine harmonisation des programmes et des contenus de l'éducation administrés au niveau fédéral. En 2003, on assiste à une nouvelle étape décisive. Afin d'améliorer la qualité de l'enseignement après le choc de Pisa, la conférence permanente des ministres de l'Éducation décide d'introduire des standards de formation pour l'enseignement secondaire. En 2003 pour Gymnasium et Realschule et en 2004 pour Hauptschule. Je préfère garder les désignations allemandes parce qu'elles sont caractéristiques du système allemand. Si toutefois l'on veut établir des liens, je vous laisse découvrir la mise en relation suivante. J'explique brièvement. Gymnasium, c'est l'équivalent allemand du collège et du lycée français. Il aboutit au baccalauréat de la 5e à la terminale. La classe 5e allemande, c'est la 6e en France. Puis la Realschule, enseignement délivré de la 5e à la 10e. À la fin, il y a un diplôme scolaire intermédiaire. Et puis Hauptschule, également de la 5e à la 10e, pour entrer après dans une formation professionnelle en alternance. Autre caractéristique du système allemand. Évidemment, il s'agit là d'un système à trois vitesses, et c'est pour ça qu'on a inventé la Gesamtschule, l'école unique polyvalente, qui combine les trois types mentionnés. Voilà, c'est à peu près le système scolaire allemand. Et la répartition des trois types, et par exemple l'existence de Gesamtschule, peut différer aussi d'un land à l'autre. Donc il y a des Länder qui ont beaucoup de Gesamtschule, il y en a d'autres qui en ont très peu. Voilà. Donc, repassons au standard. Donc, à partir de 2003, des standards à l'échelle nationale. Ces standards concernent toutes les matières communes, allemand, mathématiques et première langue étrangère. Leur niveau cible est un niveau moyen d'exigence. Ils ont deux fonctions. Premièrement, ils définissent les acquis scolaires obligatoires à atteindre au terme d'une année scolaire. Et deuxièmement, ils servent de base pour des travaux d'orientation ou de comparaison entre les différents Länder pour vérifier l'atteinte de ces standards. Le contrôle centralisé du respect des normes et standards établis passe donc par le biais d'un comparatif entre les Länder. En ce qui concerne par exemple la première langue étrangère, trois compétences principales sont définies. Compétences communicatives, compétences interculturelles et compétences méthodiques. à côté desquels l'on place ce qu'on appelle la disposition des moyens linguistiques. Hein. Non pas la maîtrise, mais avoir à sa disposition des moyens linguistiques. Cependant, cette dernière n'a pas le même poids que les autres compétences mentionnées, la communication réussie étant l'objectif principal. En 2004, est fondé en commun par les Länder un institut, Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Je crois que par intercompréhension, vous pouvez deviner ce que ça veut dire à peu près, Qualitätsentwicklung, hein, la qualité. C'est une institution scientifique qui a comme mission, dans ses propres mots, le développement, l'opérationnalisation, la normalisation et le contrôle des standards de formation. À cette fin, il entre en coopération avec toutes les institutions de recherche nationales et internationales. Et d'ailleurs, un de ses partenaires est le Centre international d'études pédagogiques en France. Et cela prouve de nouveau que la politique éducative allemande se voue de manière irréversible à cette nouvelle orientation, l'orientation par compétences. Désormais, les aspects suivants sont constitutifs pour le paysage éducatif allemand. Je résume un peu. Des analyses des performances scolaires au niveau international. Un contrôle centralisé du respect des normes éducatives par le biais d'un comparatif entre les Länder. Des travaux de comparaison destinés au contrôle des performances de chaque établissement scolaire à l'échelle des Länder. Et une coopération institutionnalisée entre l'État et les Länder, par exemple dans des institutions comme l'IQB, ou bien par l'élaboration régulière d'un rapport sur l'éducation rédigé conjointement par le ministère fédéral de la formation et de la recherche et la conférence permanente des ministres de l'éducation des Länder. Ça se passe tous les deux ans. La situation actuelle en Allemagne se caractérise donc par deux forces, pour ainsi dire. D'une part, le principe fédéral qui prévoit l'autorité des Länder dans le domaine de l'éducation, et d'autre part, les tendances de plus en plus prononcées d'établir un contrôle ou une harmonisation, selon le point de vue, au niveau national. Les standards servent au pilotage du système. Il s'agit d'un instrument de monitorage de la formation, comme on a l'habitude de dire, monitorage de la formation. Il est d'ailleurs intéressant de comparer la terminologie dont on se sert en Allemagne et en France. La première centre son discours et ses activités autour de l'idée de l'harmonisation. En France, le socle commun est défini comme le ciment de la nation. Les standards de formation et l'approche par compétences, disciplinaires ou clés, comportent donc un changement profond dans la conception de l'enseignement et de la formation. Tandis qu'avant, le système éducatif avait été centré sur l'input et les contenus, plus ou moins obligatoires, sur l'apprentissage sous l'angle d'un processus, c'est dans la perspective nouvelle, l'output, ce sont les résultats scolaires qui se trouvent au centre. Et bien sûr, cette reconfiguration a suscité des réactions très diverses du côté des enseignants, chercheurs, en différentes disciplines et didacticiens. Dans ce qui suit, je résume brièvement les points les plus importants et j'ai choisi le titre « Défis et problèmes » pour ne pas seulement parler de problèmes. Donc, les défis. Évidemment, la question de standard est compétence est étroitement liée à une culture d'évaluation et d'examen. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Si les standards de formation sont orientés vers les résultats scolaires et qu'ils ont pour but de vérifier si les compétences visées ont été effectivement acquises, il est clair que les tests jouent un rôle très central, un rôle central. Or, les recherches pour établir des instruments de diagnostic efficaces sont jusqu'à l'heure actuelle plutôt rares, du moins en Allemagne. Comme le soulignent plusieurs auteurs, enseigner par compétence implique aussi l'obligation d'évaluer les compétences, c'est-à-dire ce que les élèves savent faire et non pas leur savoir grammatical et lexical, par exemple. En d'autres mots, le principe est valable dans l'enseignement comme dans l'évaluation, ce qui n'est pas encore entré dans les pratiques enseignantes. C'est pour cela que les auteurs mentionnés proposent une nouvelle forme de tâche qui permette, entre autres, d'évaluer la compréhension auditive. Par exemple, les élèves entendent une annonce dans une gare française et doivent rendre le contenu de cette annonce. D'autres tâches servent à évaluer la compétence de lire. Cependant, la compétence écrire a fait l'objet de très peu d'analyses jusqu'à maintenant, que je sache, du moins en Allemagne. Et je pense qu'il est grand temps de s'y consacrer. Et je pense que la présente formation fait un grand pas en avant. J'ai vu que jeudi, par exemple, il y a une conférence, l'évaluation au cœur des apprentissages, eh bien c'est bien ça. C'est une question fondamentale. On peut donc résumer qu'en ce qui concerne l'évaluation, il y a sans doute des évolutions, mais il reste encore beaucoup à faire. Ici se fait sentir nettement, à mon avis, le besoin de remplir, pour ainsi dire, le socle commun des contenus qui lui manquent, ainsi que d'une certaine mesure le poids de la tradition dans nos écoles et dans nos systèmes. Néanmoins, la question de l'évaluation est une question clé, et une question clé si l'on veut réussir dans le nouveau système. Et il est donc très important que l'on tire l'attention vers l'apprentissage fondé sur les tâches. Quant à la terminologie, le problème principal, c'est que nous avons affaire à des notions qui prennent des sens différents selon les contextes et selon les situations. La notion de compétence en elle-même est très critiquée en Allemagne. Si l'on tente un peu de systématiser les critiques, on voit qu'elles se réfèrent à des niveaux différents. À la notion même, aux différences terminologiques dans les définitions proposées, parce qu'il y a un tas de définitions et de modèles différents, et finalement au décalage entre des modèles à niveaux différents. Ainsi, Tesch montre que les quatre compétences proposées dans le cadre commun, dans le cadre européen commun de référence pour les langues, savoir, savoir-faire, savoir-apprendre et savoir-être, ne correspondent pas exactement aux compétences incluses dans les standards de formation à l'échelle nationale en Allemagne, bien qu'il y ait des points communs, mais ça ne correspond pas exactement. Selon Klima, la compétence, je cite, est une disposition qui habilite les individus à résoudre avec succès certains genres de problèmes, autrement dit, à faire face à des situations d'exigence concrètes et d'un type précis. L'auteur précise que les facettes suivantes déterminent la compétence dans chaque cas individuel. Je cite encore une fois, la capacité, le savoir, la compréhension, le savoir-faire, les actes, l'expérience et la motivation. Un exemple donné par l'auteur même va montrer combien cette définition reste imprécise. Je vous laisse suivre parce que c'est une longue citation. La combinaison de ces facettes peut être illustrée à travers l'exemple de la compétence dans une langue étrangère, où la compétence communicative est donnée comme objectif de l'enseignement. La compétence dans une langue étrangère se traduit alors par les éléments suivants. La mesure dans laquelle on maîtrise des situations communicatives, mots d'action et expérience, la mesure dans laquelle on comprend des textes de nature diverse, compréhension, la mesure dans laquelle on sait rédiger des textes adaptés aux différents types de destinataires, savoir-faire, mais, entre autres aussi, la capacité d'élaborer des structures grammaticales correctes et de les corriger au besoin, capacité et savoir, ou, en termes d'intention et de motivation, se confronter à d'autres cultures dans un esprit d'ouverture et de tolérance, motivation. Les standards pour l'apprentissage de langues étrangères qui sont assujettis à l'objectif de la compétence communicative doivent tenir compte de toutes ces facettes. Dans ce contexte, non seulement les savoirs cognitifs jouent un rôle, mais aussi les attitudes, les valeurs et les motivations. Voilà. Face à ces mots, ceux qui défendent une position critique envers les standards évoquent le danger d'une orientation qui privilégie trop les résultats, l'output, et qui perd de vue les processus et les contenus. D'ailleurs, s'il y a des contenus plus ou moins implicites, à qui revient-il de les choisir et de les déterminer? C'est bien la question de l'orientation normative et du fondement des standards de formation qui est en cause. Mais si les standards de formation pour la première langue étrangère, en Allemagne soit l'anglais, soit le français, définissent les trois domaines de compétences que vous connaissez déjà, communicative, interculturelle et méthodique, des différenciations à l'intérieur de chaque compétence s'imposent. On ne peut pas le laisser comme ça, c'est trop flou, c'est trop vague. Un autre aspect est mentionné tant dans les débats en Allemagne qu'en Suisse, que je sache. Périssé Bagnou, Périssuil, le résume ainsi. Le plus grand danger est que l'enseignement devienne instrumental, réduit à la seule réussite de test, les valeurs de l'éducation étant, elles, reléguées à l'arrière-plan. Des voix plus mécontentes parlent même de tromperie, de bluff. Bien sûr, il y a aussi des positions plus favorables. Ainsi, Christ constate que c'est à travers des standards et à travers de l'enseignement par compétence que certains éléments ont été mieux intégrés dans les processus d'enseignement-apprentissage des langues étrangères dans notre cas. Par exemple, l'élément oral, la compétence réceptive de comprendre du langage parlé. Mais en Allemagne, somme toute, le débat reste très controversé et les positions critiques s'articulent avec force. Bien sûr, toutes ces révisions entraînent des conséquences pour les programmes d'enseignement dans les écoles, mais bien entendu également pour la formation des enseignants. Cette question est, à mon avis, une des tâches aveugles de la nouvelle orientation. Mais l'on ne devrait pas la perdre de vue. Comment les enseignants peuvent-ils être préparés à ces nouvelles exigences liées à l'enseignement selon les standards et l'approche par compétences? Et vu de la perspective de l'université, qu'est-ce que nous pouvons faire dans la formation de futurs professeurs pour les préparer de manière appropriée à l'enseignement de ces compétences aux élèves. Pour vous donner un exemple concret, à l'Université de la Sarre, nous nous occupons, parmi d'autres, de la formation de futurs professeurs de français, d'espagnol et d'italien. De quelle formation linguistique, littéraire, didactique et pédagogique ont-ils besoin pour pouvoir, dans leur vie professionnelle, répondre aux nouveaux besoins? En tant que linguiste que je suis, je dois donc me poser la question de savoir quel contenu, quelles méthodes linguistiques sont importantes pour les futurs professeurs. Cela implique aussi des réflexions sur les nécessités de l'enseignement du français langue étrangère. Et dans une perspective plus générale, il s'agit d'examiner les relations entre recherche linguistique, dans notre cas, enseignement universitaire et enseignement scolaire. Sans doute, cette analyse soulève aussi la question de la formation des enseignants en relation avec la recherche et le terrain, et elle permet de définir la spécificité de la recherche didactique et pédagogique qui peut difficilement s'effectuer uniquement en laboratoire. À Saarbrück, la réforme récente de la formation des futurs professeurs prévoit des liens étroits entre la formation scientifique, la formation didactique et la formation pédagogique. Les étudiants sont obligés de suivre plusieurs stages au cours de leurs études, et c'est-à-dire ils sont en contact direct avec l'école dès le début. L'idée centrale est donc d'établir une relation étroite entre expérience pratique et théorie pour encourager les étudiants, enseignants, stagiaires à réfléchir. En 2008, j'avais dans une contribution au colloque français Langue et littérature, socle commun, quelle culture pour les élèves, quelle professionnalité pour les enseignants, souligner le rôle important de la linguistique dans la réalisation d'un enseignement des langues authentiques, dont il faudrait profiter dans la formation des futurs professeurs. Et j'ai insisté sur la nécessité de développer des cours de linguistique pour les futurs professeurs. Aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur l'enseignement du et l'entraînement au plurilinguisme. En Sarre, l'université de la grande région offre des possibilités supplémentaires de familiariser les étudiants, futurs enseignants, avec les notions clés et les défis du plurilinguisme. Je vous explique brièvement ce que c'est l'université de la grande région. C'est un projet réalisé au sein du programme européen Interreg 4A et l'Université de la Grande Région rassemble les universités situées dans la région appelée Saar-Lorlux, l'Université de Liège, l'Université du Luxembourg, les universités de Lorraine avec Nancy et Metz, l'Université technique de Kaiserslautern, l'Université de Trèves et l'Université de la Sarre. Les objectifs principaux de ce projet consistent en l'augmentation de la mobilité des étudiants, des scientifiques et des doctorants, le renforcement de l'offre de formation ainsi que de la recherche transfrontalière et la préparation des étudiants au marché de travail transfrontalier européen. Donc voilà pour la Grande Région et l'Université de la Grande Région. Et au sein de l'UGR, nous avons jusqu'à maintenant réalisé 2 projets pilotes, surtout avec des futurs professeurs de français, mais aussi des futurs traducteurs-interprètes et des participants qui font leurs études dans le domaine de la communication interculturelle ou de l'allemand langue étrangère. Dans le séminaire trinationale, la gestion du savoir dans des contextes plurilingues, des étudiants issus de l'Université de la Sarre, de l'Université Paul Verlaine-Metz et de l'Université de Luxembourg ont travaillé ensemble pour mieux connaître les diverses dimensions du plurilinguisme et son rôle dans la gestion du savoir, surtout dans le contexte de l'enseignement-apprentissage des langues. La particularité de ce séminaire réside dans son caractère à la fois interdisciplinaire et transnational. Ceci permet de traiter le phénomène complexe du plurilinguisme d'une part dans les perspectives de différentes disciplines scientifiques comme la sociolinguistique, la sociologie, la didactique du plurilinguisme, l'écologie linguistique et ainsi de suite. Et d'autre part, de le placer dans les trois contextes nationaux différents, qui sont évidemment bien différents. Pour renforcer encore ce caractère trinational, le cours a eu lieu à chacune des universités partenaires, en se focalisant à chaque occasion sur un aspect particulier. Alors, tandis qu'au Luxembourg, c'était l'écologie linguistique en milieu éducatif, la journée à Metz s'est centrée autour du marché linguistique et passage de langue, et finalement à Saarbrück, l'accent a été mis sur les politiques linguistiques des pays de la grande région, ainsi que les pratiques multilingues à l'université dans une perspective contrastive. Comme le montrent les évaluations de ce séminaire par les étudiants, c'est surtout le caractère pratique et appliqué qui a été jugé très positif. Les étudiants n'ont pas seulement acquis des connaissances théoriques concernant le plurilinguisme, l'acquisition des langues, le marché des langues, les différentes politiques linguistiques, y compris leur dimension historique, ou bien les notions de base d'une didactique du plurilinguisme, mais ils ont aussi vécu des situations plurilingues authentiques. Ils ont fait l'expérience de se servir de plusieurs langues afin de se faire comprendre et ils se sont rendus compte de l'importance et de la valeur des connaissances langagières d'une langue autre que la langue maternelle. Parfois, ils ont été forcés de changer d'opinion. Ayant jugé plutôt limité et lacunaire leur connaissance de la langue du voisin, ils ont découvert combien ils savent tout de même et combien ce savoir peut être utile dans la communication. Les expériences vécues dans le cadre d'un séminaire UGR ont contribué dans un premier temps à améliorer leurs compétences communicatives, interculturelles et méthodiques. Et dans un deuxième temps et à long terme, cela se répercutera dans leurs propres pratiques enseignante. Comme le disait en 1756 l'abbé Girard, l'auteur des synonymes, il faut savoir à fond pour être en état d'enseigner. Eh bien, l'expérience personnelle plus le savoir enseigné pose, à mon avis, les fondements pour savoir à fond, j'espère du moins. Bref, l'écho tout à fait positif qu'a trouvé ce séminaire souligne la nécessité d'inclure dans la formation de futurs enseignants de français des éléments qu'on pourrait qualifier de plurilinguisme appliqué. Nous, c'est-à-dire l'équipe trinationale de professeurs qui avons organisé ce séminaire, optons unanimement pour son intégration régulière dans les cours proposés. Malheureusement, des obstacles de nature administrative empêchent jusqu'à présent la réalisation de cette intention. Quel bilan faut-il faire après presque 10 ans de standards de formation et enseignement par compétence en Allemagne? Bien sûr, dans le cadre de cette conférence, une réponse nuancée n'est pas possible. Je vais me limiter donc à citer quelques exemples pris dans une enquête récente, ainsi qu'à des réflexions plus générales. Rappelons que dans le système structuré autour des concepts de standards et compétences, les aspects suivants sont caractéristiques du paysage éducatif allemand. À côté du principe fédéral qui continue de prévoir la compétence des Länder dans le domaine de l'éducation, les tendances d'établir un contrôle au niveau national sont de plus en plus évidentes. Il y a sans doute une certaine harmonisation par le biais d'un comparatif entre les Länder. C'est indéniable. Cependant, dans une enquête menée par l'IQB en 2008-2009 sur les compétences dans les domaines langue maternelle et première langue étrangère, des différences très nettes ont été dégagées. Je cite, « En compréhension écrite, il existe un écart de niveau moyen de plus d'une année entre un élève de troisième, c'est notre neuvième classe, scolarisé à Brême, en bas du classement, et son camarade scolarisé en Bavière, le Land le mieux classé. » Un écart de niveau moyen de plus d'une année. Ces résultats confirment le fossé qui semble s'être installé entre les Länder du Sud, Bavière et Bade-Württemberg, premier de la classe depuis plusieurs années, et ceux du Nord, comme Berlin et Brême, en queue de peloton. Bien plus, un fossé supplémentaire semble s'ouvrir entre l'Est et l'Ouest, particulièrement en anglais. Donc, vous voyez, ce sont des différences vraiment très nettes. La conclusion s'impose que la mise en place de standards de formation nationaux n'a pas réussi à réduire les inégalités du point de vue régional qui caractérisait le système allemand d'avant. Évidemment, la nouvelle orientation n'a pas eu jusqu'à présent le résultat souhaité. Cela est d'autant plus problématique que la compétence linguistique est souvent considérée comme compétence fondamentale. De bonnes connaissances en langues étrangères sont reconnues comme une ressource économique et sociale indispensable dans un monde culturellement et linguistiquement multiple, où la mobilité et la migration jouent un rôle de plus en plus important. Les enseignants doivent gérer la diversité linguistique, sociale, ethnique et culturelle de leurs élèves, et l'université doit les préparer à cette tâche complexe. L'exemple de la formation de futurs enseignants de français, que je vous ai présenté brièvement, a montré une possibilité qui me semble tout à fait prometteuse. Bien que les réflexions et les informations présentées ici aient nécessairement un caractère exemplaire, j'espère qu'ils peuvent avoir un effet stimulant. Ce qui est clair, c'est que toutes les discussions actuelles autour du socle commun de connaissances et de compétences, autour des standards de formation, autour des compétences disciplinaires et les compétences clés, renvoient à des questions essentielles dans nos sociétés. Ces questions concernent non seulement les systèmes éducatifs nationaux, mais ils ont aussi une forte dimension européenne. C'est pour cela que l'échange au-delà des frontières nationales est tellement important, de même que l'échange interdisciplinaire. Il convient de saisir toute occasion pour analyser et comprendre les facteurs en jeu, pour mieux construire l'enseignement et la société de l'avenir. Et c'est cela que je termine. Merci de votre attention.